Accès libre avec Luc Fortin.
Encore accompagné pour la suite du mois d'octobre de Mme Labrec, Geneviève qui est directrice du regroupement pour la trisomie 21. Mme Labrec, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Je ne vous laisserai pas choisir vos sujets en novembre, ça c'est certain. Vous voulez nous parler de quoi aujourd'hui?
On va parler avec M. Jean-François Martin, qui est professeur en éducation spécialisée et qui a fait le défi Pérou il y a environ 6 ans. Et avec Alexandre Brault, qui était un des cinq participants, étudiant en éducation spécialisée, qui n'est plus étudiant maintenant, qui est éducateur.
Travaillant avec la déficience intellectuelle, d'ailleurs.
Exactement, Alexandre. Oui.
Mais Jean-François, lui, ne vient pas pour le défi.
Non, il vient parler de son rôle d'animateur de groupe de papa seulement au regroupement pour la trisomie 21.
Monsieur Bobin, vous êtes déjà en studio, alors vous allez nous causer de quoi, vous, dans votre visite mensuelle?
Et nous, on va parler de sécurité routière et l'impact que les accidents de la route, notamment, ont sur les pays en développement.
Et on démarre, disons, c'est pas banal.
Non, c'est original comme sujet.
Je sais pas pourquoi. Probablement parce que j'ai jamais parlé à une personne avec un TSA de sexualité, bien que je leur en souhaite plein de l'agréable et de... Ben, de pas trop s'inquiéter de leur vie sexuelle. Isabelle Hainaut. Hainaut, devrais-je dire, qui est sexologue, psychologue, directrice de la... rappelez-moi le nom, Clinique Autisme...
Oui, la Clinique Autisme et Asperger de Montréal. Bonjour.
Vous êtes située où, Isabelle?
Pour le moment, parce qu'on va déménager en décembre, on est situé sur la rue Bélanger, pas très loin de la rue Papineau. Les gens peuvent trouver nos coordonnées sur Internet avec justement le site de la Clinique Autisme et Asperger de Montréal. Mais on déménage à la mi-décembre. On va être sur la rue Saint-Laurent, au coin de Mozart.
Mozart. OK,
oui,
ça c'est sur My Land.
Ah, petit...
oui. OK, c'est plus
oui,
haut.
Oui, dans la petite Italie.
OK. Oui, je remarque qu'il y a plein de tirets dans votre site, là. clinique-autisme-asperger-montréal.ca.
Exactement. Et là, les gens pourront trouver toute l'information. L'équipe de professionnels, on a vraiment une belle équipe, 10 professionnels, incluant psychologues, psychoéducateurs, éducateurs spécialisés, sexologues, tous vraiment formés et experts dans le domaine de l'autisme et du syndrome d'Asperger.
Qui vient vous voir? Des gens de leur propre chef ou des parents qui veulent justement clarifier certaines choses?
Mais c'est bien intéressant. On a plusieurs familles qui font appel à nos services pour donner de l'information aux enfants, aux adolescents, pour être orientés. On a aussi plusieurs adultes qui consultent d'eux-mêmes, qui se posent des questions sur leur sexualité, qui auraient besoin parfois justement d'un coup de pouce, de structure. Et on fait aussi affaire avec les centres de réadaptation partout au Québec qui vont nous référer des adultes ou des adolescents qui ont soit, encore une fois, un grand besoin en matière d'éducation sexuelle ou parfois de thérapie. On travaille aussi avec les écoles et les regroupements de parents et de personnes avec TSA.
Et qu'est-ce qui les caractéristique? C'est quoi la caractéristique commune des personnes qui ont soit un trouble du spectre de l'autisme ou l'Asperger et consultent souvent pour les mêmes raisons ou c'est différent?
Oui, mais je vais vraiment vous répondre directement parce qu'ils se présentent à nous et plus de la moitié des jeunes et des adultes nous demandent de leur trouver un amoureux, une amoureuse. Hmm. Donc, ils ont envie de partager leur vie avec quelqu'un. Parfois, ils ont eu des refus dans le passé ou des expériences difficiles qui peuvent être liées aussi à l'intimidation. Comme vous le savez, dans leurs caractéristiques, ils ont aussi souvent une anxiété sociale. Mm-hmm. Donc, ils ont peur de faire des erreurs. Ils savent pas trop comment s'y prendre. Donc, ils viennent vers nous en demandant justement des trucs, des stratégies pour développer plus d'aisance puis de confiance. Et on a aussi plusieurs personnes qui viennent parce qu'ils ont vraiment très, très peu de connaissances en matière socio-sexuelle. Comme ils ont moins d'amis que les adolescents ou les jeunes adultes de la population générale, ils ont moins la chance de discuter de sexualité, d'écouter les conseils, de partager avec les autres un peu ce qu'ils vivent. Donc, ils se retrouvent souvent isolés, ce qui peut aussi parfois entraîner des sentiments de dépression, d'anxiété. Donc, ils se sentent seuls. Donc, ils viennent vers nous.
Mais vos services ne vont pas jusque-là, Isabelle?
Je dois dire, on a une multitude de services. On offre la thérapie de groupe, la thérapie individuelle. On a des groupes d'éducation pour les couples. Donc, on voit des couples aussi où un des deux partenaires ou les deux ont des caractéristiques associées à l'autisme et on les voit en groupe. C'est vraiment un nouveau projet.
Mais vous disiez que la moitié venait à vous en demandant que vous les aidiez à trouver. Vous n'allez pas jusqu'à les aider à trouver?
Oui. Tout à fait.
Bien
sûr,
donc,
en respectant notre code d'éthique comme psychologue, bien sûr, on n'est pas un centre de...
Vous n'êtes pas une agence de rencontre.
Non, on n'est pas une agence de rencontre, mais on offre beaucoup d'activités, bien sûr, éducatives, mais aussi des activités de loisirs où on va vraiment offrir un pairage au niveau de leur niveau de développement, leur âge. Et ils se retrouvent dans ce qu'on appelle notre groupe amitié. Donc, bien sûr, supervisé par nos thérapeutes, nos psychologues, où ils vont pouvoir sortir dans la communauté et aller au cinéma, au restaurant. Et comme c'est un milieu naturel, on peut travailler les habiletés sociales en milieu naturel. Donc, on leur offre cette possibilité-là de les accompagner donc, dans la communauté.
Est-ce que... Parce que j'entends finalement bon, une sorte de cohabitation entre personnes qui vivent la même réalité, mais je peux percevoir qu'une personne avec un syndrome d'Asperger peut plaire à quelqu'un qui n'a pas ce syndrome-là et vice-versa.
Oui, c'est très pertinent votre commentaire. En fait, je vous dirais plus de la moitié des couples avec lesquels on travaille, on a un partenaire qui a des traits associés au syndrome d'Asperger et l'autre partenaire qui n'a pas de traits, parce qu'en fait, bien sûr, ils peuvent plaire tout à fait. Ils ont souvent une intelligence remarquable, une attention aux détails. C'est des gens qui ont une belle personnalité, qui parfois peuvent avoir aussi quelques maladresses sociales, mais ça n'empêche pas du tout qu'ils peuvent former un couple avec une personne que nous, on considère neurotypique. Donc, il n'y a pas de traits liés à l'autisme ou au syndrome d'Asperger.
Si pour moi, une personne aveugle, je n'aurais pas besoin de regarder dans les yeux ma partenaire qui a peut-être un TSA. Il y a des gens, par contre, pour qui c'est important. On sait que ça peut être intimidant pour une personne avec un TSA, tout comme le toucher, le contact intime.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer en intimité avec son partenaire?
C'est un bon point. On a une grande majorité, en fait, je vous dirais, de notre clientèle avec TSA ou syndrome d'Asperger qui a des hypersensibilités. Mm-hmm. Que ça soit au niveau justement tactile, olfactif, et le fait de, par exemple, de cette proximité, de cette intimité peut engendrer un malaise ou un inconfort. Donc, notre travail en tant que thérapeute, c'est vraiment d'élargir le script, si je peux dire la routine, donc leur façon de s'approcher l'un et l'autre, leur façon d'entrer en intimité, voire même aussi d'avoir des contacts sexuels pour éviter que certaines parties du corps qui sont vraiment extrêmement sensibles au plan tactile soient trop sollicitées.
Et concrètement,
exemple,
Isabelle, oui, c'est
oui,
ça?
C'est ça, j'allais dire, par exemple, de façon très concrète, souvent les touchers superficiels, les câlins sont difficiles pour les personnes avec TSA, pas parce qu'ils n'ont pas envie, on parle vraiment ici de sensibilité tactile, par contre, ils préfèrent souvent les pressions profondes. Donc, on peut offrir un massage, une pression profonde et on va explorer les zones du corps qui sont moins sensibles ou qui sont pas douloureuses pour qu'il puisse y avoir donc des échanges amoureux intimes entre les partenaires.
Super intéressant.
Est-ce qu'ils sont rébarbatifs aux conseils? Je dis « ils », là, puis je trouve que ça fait étranger, mais est-ce que la personne va être justement plus hésitante à essayer des nouvelles choses, justement à cause de mauvaises expériences, peut-être?
Oui, mais c'est tout est vraiment, je vous dirais, dans l'alliance thérapeutique, puis la façon aussi de procéder, la façon de travailler avec eux. On a développé une expertise depuis plusieurs années, vraiment tout le travail qu'on fait, les programmes, les interventions ont été adaptés au profil TSA. Donc, notre travail est très concret, visuel. On a des fiches, des vidéos, rien, bien sûr, d'inapproprié ou de pornographique, là, loin de là. Mais on va vraiment leur donner un coup de pouce avec du matériel concret pour qu'ils puissent comprendre les étapes et le mettre en application. Tout ça, bien sûr, dans le respect là, d'une belle sexualité. Notre objectif, c'est pas du tout de provoquer la sexualité, c'est plutôt de l'encadrer, mais aussi d'aider nos personnes avec TSA à mieux vivre leur intimité. Donc, il peut y avoir parfois certaines réticences. Donc, on prend notre temps, on y va étape par étape. Mais dès qu'on arrive à avoir une belle alliance thérapeutique, une confiance, je vous dirais, en fait, ils sont souvent très, très contents. Ils demandent énormément de services et ceux qui viennent en groupe, donc on peut faire aussi des activités de groupe, on en a plusieurs là, chaque année. On va leur enseigner aussi avec de l'information précise, par exemple, les étapes d'une relation, qu'est-ce que l'intimité, comment décoder le langage non-verbal, le consentement sexuel. Donc, il y a aussi toutes ces, je vous dirais, ces informations qui agissent à titre de prévention et d'éducation.
Vous, excuse-moi, à partir de quel âge vous commencez les groupes?
On a des groupes pour ce qu'on appelle, nous, les préadolescents, de 12 à 14 ans. Bien sûr, il ne sera pas question de comportement sexuel, mais on va travailler toutes les notions liées à la puberté pour dédramatiser, normaliser tous les changements de la puberté. On a un thème pour eux, par exemple, amour et amitié. On va commencer à explorer les émotions. On a des activités pour décoder les émotions, le langage non-verbal, tout ça dans des contextes relationnels, souvent d'amitié, mais qui vont les préparer pour une vie éventuellement d'adolescence ou vie adulte, bien sûr, là, qui peut amener des contacts amoureux.
Isabelle Hénaud est psychologue, sexologue, elle est directrice de la clinique autiste et Asperger de Montréal. Isabelle, bon, c'est très, très, très large comme spectre. On a parlé de déficience intellectuelle, de trisomie, d'Asperger. Donc, le niveau de maturité et émotif n'est pas le même. Vous devez donc vous adapter. Comment aidez-vous peut-être la personne moins mature?
C'est un bon point. Nous, c'est très important. Dès qu'on reçoit une personne, on va évaluer son niveau de potentiel cognitif, mais aussi sa maturité affective. Et on faut voir s'il y a la présence ou pas de déficience intellectuelle. Donc, toutes les activités, que ce soit en individuel ou en groupe, vont être en fonction du niveau de développement. Si on a affaire à une personne qui a une déficience intellectuelle légère, par exemple, ou une forme d'autisme plus sévère, notre matériel est très visuel, concret. On a des fiches, des pictogrammes qui ont été élaborés. Donc, il y a des séquences d'enseignement où on va utiliser beaucoup de répétitions, un encadrement, et on va beaucoup outiller les parents aussi pour qu'ils puissent supporter leurs jeunes à la maison. Et même chose pour les éducateurs ou les enseignants avec lesquels on collabore. On les invite à nos sessions pour les coacher. Donc, tout le monde parle le même langage, on utilise le même matériel et ça nous permet justement de faire un grand bout de travail. Puis pour moi, ce qui est important avec les personnes qui sont plus vulnérables, donc parfois avec déficience intellectuelle ou autisme plus sévère, c'est vraiment la prévention, la reconnaissance des situations potentiellement dangereuses, l'abus sexuel et comment éviter de se mettre les pieds dans les plats. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là.
Et les parents, en règle générale, ils sont très ouverts à parler de sexualité avec leurs enfants?
Bien, pas tellement, en fait. Il y a souvent un malaise, je vous dirais, parce que le parent se sent lié au plan affectif et les familles nous disent « est-ce que c'est à nous de l'aborder? » Et souvent, je vous dirais, c'est pas tellement qu'ils ne veulent pas, mais ils savent pas comment s'y prendre et par où commencer. Alors qu'on a, nous, monté des programmes avec des étapes très logiques, les parties du corps, la reconnaissance justement des organes génitaux, les lieux privés publics, on a des fiches, on a les photos, comme je disais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit une séquence pour la personne, selon bien sûr ses besoins et son niveau de fonctionnement. Et par la suite, les parents peuvent prendre la relève et poursuivre certaines activités à la maison. Et ce travail de collaboration est vraiment majeur. Plus on a de collaboration de la part des familles et aussi des professionnels autour, incluant aussi parfois des enseignants, plus on a de succès. Et c'est pour ça qu'on se promène beaucoup dans les écoles où il y a des classes avec des personnes avec TSA. On offre donc des sessions de formation intensive pour les enseignants, pour les professionnels autour, puis on a une réponse extrêmement favorable. Je vous dirais, en fait, même les parents et les professionnels nous disent c'est génial parce qu'ils ne savaient pas par où commencer, est-ce que c'était leur rôle ou pas. Et donc, ça soulève un bel enthousiasme, mais aussi ça soulage les craintes et les peurs.
Sûrement que vous désamorcez pas mal de choses.
Tout à fait.
Isabelle Hénaud, donc sexologue, psychologue, elle est directrice de la clinique Autisme Asperger Montréal sur le web, puisqu'ils vont déménager bientôt, clinique-autisme-asperger-montréal.ca. Le site sera sur la page d'Accès Libre. Merci beaucoup Isabelle, bon voyage en Europe.
Oui, merci beaucoup. Là, on s'en va justement former des professionnels dans 3 pays. Pour moi, c'est toujours une nouvelle qui est fabuleuse de voir l'ouverture, bien sûr, ici au Québec, mais partout dans le monde sur ce thème qui, pour moi, est primordial.
Et bon déménagement.
Merci beaucoup.
dites-moi d'où il vient. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
Stromae, évidemment. Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Bobin, Jérôme, de son prénom, est directeur général de Handicap International, la section canadienne. On est bien content que celle-ci ait son bureau à Montréal, mm-hmm. parce que ça nous donne l'occasion de serrer la pince à Jérôme une fois par mois, lui qui revient des USA.
Oui, tout à fait.
Quand même. Vous vouliez nous parler d'un sujet auquel j'aurais jamais pensé m'intéresser, parce que j'ignorais l'importance en stats du nombre de personnes qui subissent un handicap dans les pays du Sud à cause de la voiture.
Oui, justement, ouais. C'est pour ça que c'était, il me semblait intéressant d'en parler. Quand j'ai commencé à préparer cette chronique, Luc, il y a deux photos et deux images qui me sont revenues en tête. La première, on est en décembre 2008. Je suis moi-même au Cambodge, sur une petite route en direction des temples d'Angkor. Je suis dans un tuk-tuk, vous savez, ces triporteurs à vélo, en fait. Et puis derrière moi, je me retourne et je croise un sourire, deux, trois, cinq. Cinq sourires sur le même scooter.
Wow.
C'est-à-dire une famille entière juchée sur un scooter et seulement la maman porte un casque. Et les quatre enfants, un devant, trois derrière, n'ont pas de casque. Deuxième image, je pense à cette, toujours au Cambodge, on est beaucoup plus récent puisqu'on est en mars 2015. Une petite fille, Kanara, est assise sur son lit, sauf qu'à un pied d'elle, sur sa droite, il y a sa prothèse de jambe et puis il lui manque son bras droit. Pendant une fête de famille, c'est un camion fou qui l'a fauché pendant qu'elle courait à travers la rue et qui lui a causé des amputations. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que là, on est en octobre 2015 et l'Organisation mondiale de la santé vient de sortir la mise à jour de son rapport sur les accidents de la route. Et on parle de 1,25 million de personnes mortes par les accidents de la route sur la planète. Et puis surtout, d'une fourchette de 20 à 50 millions de blessés. Alors vous allez me dire, mais 20 à 50 millions, c'est une grosse fourchette. Mm-hmm. Ben, c'est bien le problème, en fait, de la sécurité routière, c'est que les données ne sont pas encore toutes accessible. Et du coup, on est en train de naviguer pour les accidents dans ce type de fourchette. Ce qui est certain, par contre, c'est que 90% des accidents de la route arrivent dans les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement.
90%?
Oui.
Ouh, c'est un gros chiffre.
Et Jérôme, tu me signalais qu'entre autres, c'était à cause de l'organisation de la route. Oui, il y avait une certaine précarité ou une certaine, témérité dans la façon de se transporter, mais également l'emplacement des routes trop souvent est cause d'accidents.
Mais en fait, il y a tout un tas de critères. Si ceux qui nous écoutent ont eu l'occasion de voyager, par exemple, à Hanoï, au Vietnam, quand on essaie de traverser la rue en centre-ville, on prend un risque quotidien. D'ailleurs, même les guides touristiques écrivent « Lancez-vous, ce sera le trafic qui va s'arrêter ».
Ah ben oui.
C'est quand même un petit peu étonnant. Dans d'autres pays, on va croiser des enfants qui vont à l'école, puis ces enfants-là sont doublés par une charrette tirée par des ânes, qui sont doublés par des motos, qui sont doublés par des camions. Et puis tout ça, ça se passe sur des routes avec des boutiques, des marchands, avec des animaux de ferme et tout ça, et dans une joyeuse fête, mais une joyeuse fête qui termine bien souvent très mal. En termes de handicap, Luc, parce qu'on parle des accidents, tous les accidents ne se transforment pas en un handicap permanent, heureusement. On a un gros défi de collecte d'informations. Par contre, les chiffres varient. Par exemple, au Pérou, c'est 4% des blessures qui se transforment en handicap permanent. Ça peut paraître pas énorme. Au Cambodge, on est à 16%. Au Canada aussi, on est à 16%. Et par contre, au Guatemala, on est à 60%. 60% des accidents se transforment derrière en un handicap permanent, wow, avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la prise en charge nécessaire et la réinsertion après de cette personne nouvellement handicapée.
Oui, prise en charge qui n'est pas toujours capable dans bien des pays, là.
Non, et c'est bien justement là où des organisations comme Handicap International peuvent faire une différence. Il y a 5 piliers dans l'action contre l'insécurité routière. 5 piliers, ce n'est pas nous qui les avons inventés, c'est justement l'Organisation mondiale de la santé, c'est les Nations unies qui définissent 5 piliers. Le premier, c'est la collecte d'informations, j'y reviens, c'est indispensable. Quand on veut s'attaquer à un sujet, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et donc, dans chaque pays, il faut absolument obtenir des données fiables sur les accidents, les comportements à risque, les situations les plus dangereuses. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, c'est la sécurité des infrastructures. J'étais en Colombie, vous le savez, on en a parlé à cette antenne pour le projet d'assistance contre les victimes contre les mines antipersonnelles. À Bogota, j'ai quasiment vu que des passerelles au-dessus des routes, des passerelles équipées de rampes d'accessibilité pour permettre aux gens de traverser la route. Donc aux gens, c'est forcément aux cyclistes qui peuvent traverser, mais c'est aux personnes à mobilité réduite, c'est aux parents avec des poussettes. C'est une accessibilité pour tout le monde. Il y a des pays qui mettent ça en place, mais entre ce que peut faire une capitale d'un pays comme la Colombie et ce que peuvent faire d'autres pays les plus pauvres, il y a quand même un enjeu important.
Est-ce que le Guatemala, si on revient à cette situation-là, est au courant, dans le sens, traite de façon sérieuse cette épidémie?
Tout le monde voudrait le traiter. Je peux pas croire qu'aucun gouvernement n'ait pas envie de traiter ça de manière sérieuse. Cependant, quand on a à traiter la sécurité routière, mais aussi le service de santé de base de n'importe quel pays, quand on a à traiter les défis économiques, quand on a à traiter les inégalités, la sécurité routière qui, en plus, est directement liée au développement du pays. On n'a pas encore inventé un modèle de développement où on se passe de la voiture, on se passe des routes, on se passe du trafic routier. Donc, plus ces pays vont se développer, plus l'économie va se développer, plus les transports routiers vont se développer et plus les accidents, si on n'y fait rien, si on n'y prête pas toute l'attention nécessaire, vont se développer.
Mais bon, c'est peut-être simpliste de ma part, mais d'apposer des limites de vitesse, les faire respecter, de mettre des feux de circulation un peu partout, je veux dire, pour que 60% des accidents se concluent par un handicap, c'est que les gens vont trop vite, c'est que les gens sont peut-être un peu casse-cou, je ne sais pas, là, mais il y a un problème.
Il y a aussi un défi sur les règles de comportement à avoir aux abords d'une route, parce qu'en fait, c'est aussi très lié. On verra si on analysait tous les documents et tous les chiffres à disposition. On voit bien que dans les communautés, dans les pays où il y a une forte proportion de piétons en tant qu'usagers de la route, forcément derrière, l'accident invalidant est plus important parce que forcément quand on n'a pas de carapace autour de soi, on est plus sensible à ça. Donc il y a tout un tas de choses. En effet, les lois sont à changer, les feux sont à installer, les limitations de vitesse sont à mettre, certes dans les grandes villes, mais ces pays-là aussi ne sont pas tous tous les gens ne sont pas dans les grandes villes.
Est-ce que Handicap International est-il apte d'une façon ou d'une autre de faire quelque chose? Et est-ce que les gouvernements sont nécessairement ouvert à ce qu'une ONG vienne proposer...
Oui, parce qu'en fait, Handicap International, ça fait 15 ans qu'on travaille dans la sécurité routière. On est actuellement actif dans 10 pays et on est en train de développer des projets dans 15 autres. Donc, ça fera 25 dans les 2-3 ans qui vont venir. On sera actif en sécurité routière dans 25 pays. Les gouvernements sont partenaires parce qu'ils ont besoin de cette compétence qu'on apporte, soit parce qu'on a développé déjà des choses à succès dans d'autres pays, soit parce qu'on est une ONG originaire du Nord finalement. Donc on apporte aussi des habitudes et des règles du Nord. Et donc les gouvernements sont partenaires avec ça, mais ça passe pas que par les gouvernements. C'est aussi les organisations locales, la société civile locale qui doit être renforcée. À la fois dans sa capacité de collecter des données, mais aussi dans sa capacité à aller dans les écoles, à aller dans les rassemblements populaires, à former, à expliquer tout ça. Et puis une autre chose très importante que Handicap, par contre, là, peut apporter, c'est la prise en charge immédiate et puis après, la réadaptation fonctionnelle. Ça, c'est notre cœur de métier. On le fait pour les victimes de mines, on le fait pour les victimes des accidents de la construction, on le fait pour les victimes de maladies invalidantes, on le fait aussi pour les victimes de sécurité routière. Il y a deux étapes. Juste après l'accident, il y a des comportements et des gestes à avoir ou à ne pas avoir. Et ça, il faut renforcer les services d'urgence à avoir ces gestes-là. Et puis, dans un deuxième temps, la réadaptation fonctionnelle et tout ce qui est réinsertion socio-économique, retour à l'école. La petite Canara dont je vous parlais au début, qui a perdu sa jambe droite et son bras droit, après l'avoir appareillée, et d'ailleurs, entre parenthèses, on a mis 4 ans à l'identifier. C'est-à-dire que pendant 4 ans, elle n'a pas eu d'appareillage entre l'accident. Mais maintenant qu'elle a cet appareillage, tout s'ensuit. On peut l'aider à retourner à l'école. Et puis, quand elle grandira, on pourra l'aider à trouver un travail et en tous les cas, à reprendre la place qu'elle avait avant, peut-être différemment, dans la société.
Et on peut imaginer, si on se compare, on regarde le nombre de personnes handicapées au Canada et l'accès parfois limité, donc on peut présumer que dans certains pays, maintenant, que tu as eu, supposons, une prothèse ou une orthèse, ce qui n'est pas donné à tous, après ça, c'est de lutter contre les infrastructures et contre un pays qui, tranquillement, va s'ouvrir à ces nouvelles réalités-là. Donc, on parle de génération.
Oui. Donc, ça va prendre du temps. Mais par contre, si on ne fait rien, c'est important.
Vous avez raison.
Si, en 2030, l'OMS prévoit que ça soit la troisième cause de mortalité dans le monde si on ne fait rien. Donc, je pense que ça mérite qu'on s'en intéresse tous.
Troisième cause de mortalité.
C'est énorme.
Quand on pense aux guerres, quand on pense au changement climatique, quand on pense aux
maladies.
C'est fou. Alors, ménageons nos transports.
Oui,
mesdames, c'est le cas de le dire.
Monsieur Bobin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Au mois prochain.
Ben, j'espère bien.
Et oui.
Nous, on va causer paternité, trisomie, escalade, déficience intellectuelle. Encore 30 minutes à passer ensemble.